Voilà, bienvenue à chacun et chacune et chacun. C'est un plaisir de se retrouver. Alors autrefois, quand on faisait des études bibliques, on avait des grandes tables et on se mettait en cercle et puis ça provoquait la participation plus facilement. Mais il ne faut pas hésiter à participer, même si je suis là à cause du micro, c'est tout. Mais donc on peut, voilà, on est ensemble et on peut participer, poser des questions et voilà. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ta présence, pour ces moments ensemble et merci de ta parole qui est si riche et aide-nous à saisir ce qui est important, parle à nos cœurs. Bénis chacun d'entre nous qui sommes ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir et merci de nous renouveler au nom de Christ. Amen. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et qui est un livre évidemment assez particulier, passionnant, avec sa part de mystère, de symboles, d'énigmes, mais il y a quand même des points concrets que nous voulons voir ensemble. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 13, où il est question de la bête et du faux prophète. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un à des oreilles qui l'entendent. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité, et si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà tout le chapitre. Nous avons donc là un panorama et j'espère que voilà, vous avez peut-être dans la semaine regardé ce texte un petit peu. Il y a quelque chose de saisissant concernant les 3 personnages du chapitre 12 et du chapitre 13. Il y a le dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et en fait, nous savons que c'est le dragon Satan, la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist, et la bête qui monte de la terre est appelée le faux prophète. Et il y a une chose assez incroyable, c'est une évidence, et nous n'allons pas voir toute la liste ce soir, mais le diable imite et fait du plagiat, en quelque sorte, de ce qu'est Dieu et de la nature de Dieu et de ses actions. Donc il y a une imitation jusqu'à créer un parallèle qui est assez saisissant. Et là, de même que Dieu se présente en trois personnes, il y a une trinité diabolique qui prend forme, et où il y a une interdépendance et une réelle complémentarité, où voilà, on adore la bête, le dragon, la bête, et donc l'un appuie l'autre. Donc c'est une vraie stratégie, et nous verrons dans la liste des, de même que Christ a l'épouse, l'Église, eh bien la bête aura la prostituée. Nous verrons le chapitre dans l'Apocalypse de la Grande Babylone. Nous allons voir ce soir que Satan va aussi imiter, l'Antichrist va aussi imiter la mort et la résurrection, pour justement provoquer l'admiration jusque à là même, jusqu'à l'adoration. Voilà, ça c'est une première chose importante. Et d'ailleurs, dans le verset 3, vous avez une des têtes a été blessée à mort. Hein. L'expression blessée à mort ici est identique à celle que l'on attribue à Christ dans Apocalypse 5, 6, un agneau qui était là comme immolé. Et quand on voit le mot immolé ou blessé à mort dans l'original, c'est le même mot. Évidemment, cette blessure qui est guérie provoque l'admiration, et ce miracle a pour effet de fasciner le monde. Et les gens accueillent particulièrement ce personnage qui a tant de puissance et tant de pouvoir. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit dans Jean 5, 43, peut-être pense-t-il à l'Antichrist dans le futur, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Et donc, et vraiment, là, il y a une... Oui, c'est toute la terre qui le reçoit. Puisqu'ils vont jusqu'à dire « Mais qui est semblable à la bête ?» Hein, il y a... Voilà, enfin, on a trouvé quelqu'un qui nous satisfait pleinement. Et il est unique. Hein. Ça, c'est peut-être aussi, là aussi, une façon... là, ce sont les admirateurs, les adorateurs de la bête qui font comme... ça rappelle l'expression biblique de l'Ancien Testament, « Qui est semblable au Très-Haut ?» Hein. Donc, il y a aussi une équivalence là dans les... dans les expressions. Alors, cette bête, verset 2, il est parlé semblable à un léopard, les pieds comme un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? À Daniel, très bien. C'est Daniel. Alors, c'est une équivalence assez étonnante. Il faut que nous allions à Daniel. Est-ce que peut-être certains vont découvrir, je ne sais pas si tout le monde connaît la vision du prophète Daniel, mais elle est une bonne base si on est au début de nos pas dans l'Apocalypse. Moi, j'ai commencé par cela. Je trouve c'est simple, c'est global, oui, c'est pas très très compliqué. C'est une vision qui avait été donnée à un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar et qui n'y comprenait rien d'ailleurs. Et il va falloir que Daniel s'approche de lui pour lui expliquer. Alors, vous vous souvenez de la vision? C'était une... une grande statue. Hein? Mais cette statue, elle est particulière. Donc, le défi est grand parce que il va falloir que Daniel explique la statue. Mais le roi, comme il ne se souvient pas même du songe qu'il a eu, demande à Daniel de lui dire qu'est-ce que j'ai rêvé, c'était quoi le songe. Donc Daniel va devoir donner et le songe et l'explication. Et vous avez cela dans Daniel chapitre 2. Voilà. Et nous pouvons... verset 31... Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc on imagine une statue. Si vous taperez statue de Daniel, du prophète Daniel, vous verrez, il y a plein de jolis schémas, bien expliqués, avec un bon découpage, il n'y a pas de souci, vous trouverez ça facilement. Et tu regardais, lorsqu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main, frappe les pieds de la statue, les met en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or, tout ça fut brisé et disparaît comme une balle qui s'emporte. Et emporté par le vent. Mais la pierre qui a frappé les pieds, eh bien, devient une grande montagne et remplit toute la terre. Et là, vous avez tout le schéma de la prophétie à partir du moment où Israël est stoppé, dispersé par les nations, déjà par Babylone. Alors, l'explication de la statue, le fait qu'il y ait différentes parties différentes, correspond aux empires qui se succèdent. Donc, là, l'or, c'est Babylone. Après viennent les Mèdes et les Perses. Donc, Babylone, le premier empire, la tête d'or. Mais, donc, elle n'est pas très difficile à comprendre. Et la petite pierre, on sait que c'est le retour de Christ qui fera écrouler toutes les nations, les empires, l'organisation humaine. Et c'est assez extraordinaire, mais il faut imaginer quand même du concret. Vous vous rendez compte qu'un jour, tous les systèmes humains de gouvernement seront emportés comme une balle et Christ règnera sur toutes les nations et prendra le contrôle de toutes les nations, il n'y aura plus d'empire. Le temps des nations, comme cela est dit dans l'évangile de Luc, sera terminé. Alors, voilà la vision de Daniel 2. Mais vous me dites, qu'est-ce que ça a à voir avec le lion, l'ours, etc. C'est que la même vision va être donnée à Daniel personnellement par le Seigneur, non plus sous la forme d'une statue, mais dans le chapitre 7, sous la déclinaison de bêtes différentes. Vous voyez ? Alors, quand vous regardez donc le chapitre 7, alors, voyons, chapitre... Voilà, les... Je regardais verset 2 pendant ma vision nocturne, voici des quatre vents des cieux et quatre grands animaux sortir de la mer différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion. Hein? Donc là, il s'agit de Babylone. Le deuxième animal, verset 5, était semblable à un ours, qui est mentionné aussi dans Apocalypse 13. Hein? Voilà. Après, le troisième, le léopard, etc. Et le quatrième animal, il n'a pas de nom. Il est dit ici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. On est dans Daniel 7, verset 7. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Alors, quand on commence à étudier, regarder de près tous les détails, évidemment, ça serait un peu long. On ne peut pas le faire dans l'heure qui nous est impartie. Mais l'idée, c'est de vous donner juste les rails pour après creuser. Donc, même si vous ne captez pas tout ce soir, il faut que la base soit simple et claire. Hein. Et après, ça va vous donner la joie d'ajuster tous les autres détails. Donc, le premier empire, nous savons que c'est Babylone, c'est le lion fort et redoutable. Et ce lion a des ailes d'aigle. Hein. Donc, il semble que c'est quelque chose qui n'a point de limite, hein, mais elles ont été arrachées et tout d'un coup Babylone s'est écroulée, remplacée par les Mèdes et les Perses, deuxième empire. Alors évidemment on ne peut pas détailler, hein, là nous sommes dans le deuxième empire autour de 538 avant Christ. Dans Daniel 2 c'est les bras, la poitrine et les bras d'argent, hein, représentés par un ours. Et les Mèdes et les Perses sont réputés pour vraiment qui sont très cruels, très très cruels, très durs et très, oui, ben un ours est très très violent, hein. si on vous en croise un dans les Pyrénées, je vous assure que c'est pas, voilà. D'ailleurs, il y a même un verset qui parle de le prophète Ésaïe, vous le noterez, Ésaïe 13, 17. Voici, j'excite contre Babylone les Mèdes qui ne font pas cas de l'argent. Eux, ce n'est pas l'argent, hein, qui les intéresse. De leur arc, ils abattront les jeunes gens, ils seront sans pitié et ils n'épargneront personne, ni les enfants. Donc, c'est d'une cruauté. Voilà. Hein. Ça, c'était la mentalité des Mèdes et des Perses. Après, il y a les Grecs. Le léopard, alors c'est intéressant parce que le léopard est caractérisé par la vitesse. Et c'est un des plus rapides. Oui, bon, le léopard aussi, il est rapide aussi. Et en fait, c'est la caractéristique d'Alexandre le Grand, qui allait très vite, qui a conquis plein de zones très rapides. Hein. Je crois qu'il est mort, il avait à peine 30 ans, hein, quand il est mort. Donc, il était mort très jeune. Hein. Donc, il a fait tout ça très vite, très rapidement. Mais par contre, guépard ou léopard, ça court vite, mais pas longtemps. Voilà. Hein. Donc, et bien sûr, vous découvrirez, alors c'est intéressant, parce que il avait 4 ailes, comme un oiseau, cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Et après, donc, l'Empire grec, d'ailleurs, va être divisé en 4. Et donc, tout correspond. Et puis, le 4e empire. Alors, par déduction, on sait que on arrive à l'Empire romain. On arrive à l'Empire romain, qui est le 4e empire. Et cet empire est tellement particulier qu'aucun nom d'animal ne lui est donné. Voilà. Mais alors, pour mettre tout ensemble, si la pierre qui est Jésus-Christ frappe les pieds de la statue et il n'y a que 4 empires, vous me dites, mais alors, l'Empire romain n'existe plus. Mais l'Apocalypse 13, on a lu qu'il revient à la vie. Et en fait, dans la vision du prophète, il n'y a que 4 empires. Et cette bête extraordinaire va à nouveau se réveiller à la fin des temps et va reprendre sur elle les caractéristiques de tous les royaumes qui l'ont précédée. Et c'est pour cela que vous voyez le nom des autres royaumes, des bêtes dans l'Apocalypse 13. Hein? Et cet empire a 2 jambes, si on reprend l'image de la statue, l'Empire romain va se diviser en deux, hein, l'Empire d'Orient, et puis l'Empire romain d'Occident. Et puis après, il y a des pieds de fer d'argile, hein, alors des matières qui ne se complètent pas vraiment, des alliances particulièrement fragiles. Hein. Et puis c'est au niveau des pieds. Alors les pieds, il y a 10 orteils. La bête a 10 cornes. Donc il y aura un groupe de royaumes. Les cornes, en principe, dans la prophétie, représentent une autorité, un royaume. Et c'est cela qui prendra place. Alors, si on revient dans Apocalypse, il y a un verset que je voudrais donc vous montrer. Donc c'est le verset 8. Alors attendez que je vérifie. Apocalypse 17, verset 8. 17, hein? Même le verset 7, là je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme, de la bête qu'il a. De la femme et de la bête qui la porte. Donc là, nous verrons la femme dans une étude future, la grande Babylone. Ce sera intéressant de voir aussi la continuité. En fait, on pense qu'on est dans des choses modernes, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui continuent, hein, en culture, en tradition, en religion. Les racines sont multiples. Et de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Donc, elle était, elle n'est plus, puis elle réapparaît. Et en fait, c'est l'Empire romain qui, quand l'Antichrist viendra, va reprendre en quelque sorte l'Empire romain. Et va s'asseoir, alors il va s'asseoir son autorité sur une base de 10 nations. Alors, bon, l'Europe, c'est plus que 10 nations. Hein. Vous savez que l'Europe a commencé à Rome, hein, dans les années 50. Donc, le traité de Rome a lancé l'Europe. Et nous sommes dans plein de choses, toujours dans l'Empire romain, dans les codes, le langage militaire, dans l'organisation de plein de choses. Mais ce qui est assez étonnant, est-ce que vous saviez que plusieurs hommes ont essayé de faire revivre cette bête? C'est-à-dire l'Empire romain. Alors, c'est étonnant, pourquoi faire revivre, hein, l'Empire? Et donc, ça n'a pas pu se faire, mais l'Antichrist le fera. Il y arrivera. Charlemagne, par exemple, en l'an 800, est couronné par le pape empereur des Romains. Voilà, toute l'Europe de l'Ouest est sous son contrôle. Après, vous avez Othon. Il y a eu plusieurs, Othon Ier, Othon III, en 962, empereur du Saint-Empire romain-germanique aussi. Donc, Othon III transfère le siège de son gouvernement à Rome. Donc, et il rêve, lui, d'établir un empire romain universel et chrétien. Donc, Napoléon aussi, qui se surnomme Charlemagne. Pour lui, il veut faire revivre Charlemagne, en quelque sorte. Et pour Napoléon, Rome a une fascination particulière. Et vous connaissez l'histoire, hein, le 2 décembre 1804, il se sacre lui-même empereur, et il dit ceci dans son sacre, « Je suis empereur romain dans la pure lignée des Césars. » C'est étonnant, hein, comme phrase. Bismarck, le 18 janvier 1871, annonce à Versailles le deuxième empire allemand. Le deuxième Reich. Et vous connaissez celui qui a essayé de faire revivre le troisième Reich. Ah, il voulait faire un empire qui dure 1000 ans. quand même. Voilà. Et voilà, bon, mais il avait un concurrent aussi qui il aurait bien aimé avoir sa place, c'est Mussolini. Hein. Voilà, et qui lui aussi veut faire revivre la gloire de Rome. Et il va rétablir le salut romain, place l'aigle romain au Capitole. Hein. Et la destinée de Rome, dit-il, c'est d'être la capitale et la civilisation de toute l'Europe. Voilà. Donc, les 10 cornes de la bête représentent des grands pays qui vont revivre et refaire vivre donc, cet empire. Donc la bête, alors c'est à la fois un empire, c'est aussi une personne, hein, et qui elle sera incarnée par une personne. Hein. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le temps des nations, comme nous l'avons dit, mais nous savons que il y aura cette quatrième bête qui va donner au monde quand même un leader, c'est parce que ces empires sont animés par des leaders. Chaque empire, il y avait un homme à la tête, hein, c'est très incarné par quelqu'un. Et vraisemblablement, ce qui se passera, c'est que le Seigneur reviendra prendre son Église. Le monde va continuer sans l'Église, sans les chrétiens, et la puissance du mal augmentera, comme nous l'avons vu, le dragon est chassé du ciel, il va être précipité sur terre et aura peu de temps, et va donc exiger de toutes les nations une soumission absolument totale. Vous avez vu. Il y a des similitudes qui sont intéressantes à voir. Donc, quand vous lisez la quatrième bête et quand vous lisez Apocalypse 13, vous avez vraiment des similitudes. Animal à 10 cornes, hein, ça c'est donc dans les deux textes. Une bouche qui parle avec arrogance. Une deuxième similitude. Vous avez, dans Apocalypse 13, la bouche qui profère des blasphèmes. Dans Daniel, qui injurie le Très-Haut. Donc Daniel 7, 27. Et dans Apocalypse 13, 6, blasphème contre Dieu. Dans l'un et l'autre, donc Daniel 7 et Apocalypse 13, vous avez « Elle fait la guerre aux saints ». Et vous avez enfin aussi, l'autre similitude, « Un temps limité leur est donné », donc 3 ans et demi. 3 ans et demi. Alors on sait que ce qu'on appelle la grande tribulation durera 7 ans et qu'il y aura 3 ans et demi particulièrement intenses de cruauté, de soumission exigée, extrême. Et tous ceux qui ne se soumettent pas, donc le dragon fera la guerre au sein. Hein. Donc il aura une brutalité terrible. Au fond, il va rassembler tout sur lui, tout ce qu'ont été les empires précédents, puisque dans Apocalypse 13, on voit que les différents animaux de Daniel et des empires d'autrefois sont repris. Hein. La majesté de Babylone, la force et la brutalité des Mèdes, la rapidité du léopard, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à demander au point où on en est ? Sinon, on va entrer dans ce qui est particulier. Mais je pense que c'est important de prendre du temps sur le contexte. Après, les choses deviennent simples une fois qu'on sait que le futur, les hommes, l'humanité vivra sous l'empire de l'Antichrist. Et bien sûr, il faudra que, vous avez vu au verset 8, toute la terre l'adorera. Hein? Voilà. Et donc, il y aura un faux prophète qui va donc imiter l'œuvre du Saint-Esprit en symétrie. Et il y aura une marque, et il faudra que les gens soient marqués sur le front ou sur la main. Alors, évidemment, aujourd'hui, il est même dit que, on l'a lu, verset 17, on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter, on ne peut rien faire sans avoir la marque. Bon, ce n'est pas le pass sanitaire, mais on peut commencer à imaginer comment... Et c'est vrai, donc, avant-hier, j'étais à Brignoles, bon, on a mangé dans un restaurant, alors il a fallu sortir la marque du pass pour entrer dans le restaurant. Mais nous allons de plus en plus vers une société qui, sous le couvert de « mais non, tout est plus pratique, tout est plus simple », nous dépossède de beaucoup de choses, c'est certain. Alors on sait que des expériences sont tentées, des puces électroniques qui viendront un jour, on en aura marre d'une carte bancaire qu'on peut se faire voler, etc. Ben, on peut l'intégrer sous la peau et puis voilà, c'est terminé. Ça existe déjà. Alors, pourquoi... Alors, tout d'un coup, il est dit, voilà, le futur antichrist, le futur, finalement, le grand homme providentiel, et vous apercevez qu'aujourd'hui, les choses mûrissent pour qu'on aille vers un homme qui a beaucoup de pouvoir, de charisme, de possibilités, parce que, de plus en plus, toutes les nations désespèrent de trouver des gens à la hauteur. Même, on ne va pas entrer dans le sujet, même si, est-ce que vous savez qu'il faut choisir en avril? On commence à se gratter la tête, et on dit, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui soit, voilà. On ne sent pas que les gens sont à la hauteur. Mais cet homme, cet antichrist, il se présentera et tout le monde sera convaincu qu'il est à la hauteur, puisque tout le monde va dire, mais qui est semblable à lui? Donc là, ça se fera. Et alors c'est très intéressant de ce qui va vouloir la marque de la bête, qu'elle soit sur le front ou la main, pour justement un petit peu... faire l'autre côté, toujours la symétrie négative de Dieu, parce que dans Deutéronome 6, est-ce que vous savez ce que Dieu avait demandé aux Juifs concernant la parole de Dieu? Voilà, il fallait... Oui, il y a les guirlandes. Non, les guirlandes, c'est... Oui, c'est à Noël. Enfin, oui. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Donc, les commandements que je te donne seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Tu les liras comme un signe sur tes mains et comme des frontaux entre tes yeux. Autrement dit, pour ne pas l'oublier, il fallait que les Juifs portent les commandements à la main ou au front. Donc entre les yeux, c'est le front. Tout à fait, tout à fait. Les phylactères. Donc c'est... Alors, peut-être vous avez déjà vu des Juifs orthodoxes avec une boîte là. Ça s'appelle donc des phylactères. Il y a le phylactère placé sur la main et phylactère placé entre les yeux. Donc, finalement, en faisant cela, les Juifs affichaient que la parole de Dieu concerne deux zones d'influence. Le front qui désigne la pensée, la main qui désigne l'acte. Et ainsi, quelqu'un qui a la parole de Dieu au front et à la main, bon, ça c'est extérieur, mais il faut que ce soit intérieur, affiche, je prends les commandements de Dieu comme pour nourrir ma pensée et conduire mon action. De toute façon, l'un va avec l'autre. Si je pense mal, je vais mal faire. Et Et donc, la marque est caractérisée par un chiffre, donc c'est le fameux 666, qui est le dernier, sont les derniers mots du chapitre 13. Bon, on a essayé de savoir comment ça se concrétisera. On sait pas trop encore. Hein. On nous dit que c'est un chiffre d'homme, et c'est vrai que c'est que le chiffre de Dieu, c'est 7. Hein. Voilà. Mais nous savons que le diable voudrait prendre la place de Dieu, se substituer à Dieu, et il le fera dans les signes. Hein. De même que il va utiliser donc cet antichrist qui sera là mis en place par l'autorité de Satan. Alors l'antichrist, ça sera peut-être une personne humaine totalement investie de voilà comme Christ qui était incarné. Ce sera peut-être voilà quelqu'un qui apparemment ressemblerait à tout le monde, mais qui pourra se révéler. Donc si c'est une personne concrète, voilà, ça pourrait être quelqu'un. Et il aura un serviteur, il aura quelqu'un, un premier ministre en quelque sorte, un faux prophète, hein, qui justement fera comme le Seigneur qui avait le Saint-Esprit. Et ce faux prophète, c'est lui qui vérifie que tout le monde a la marque. Donc à partir du verset 11, nous avons lu, et dans les versets suivants, c'est lui qui fait que chacun doit avoir cette marque. Et là encore, c'est une parodie de l'œuvre du Saint-Esprit, hein, puisque la marque, c'est un vrai sceau, c'est quelque chose de définitif. Et donc, dans Éphésiens 1, 13, vous avez ce verset, « En lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. » Donc, on entend la parole, on décide, j'y fais confiance. Et à partir du moment où on a cet acte de dire, bon, ben, je vais faire confiance, même si je ne comprends pas tout, même si certaines choses me dépassent, je veux faire confiance. La Bible dit que lorsque, donc, on a une disposition du cœur favorable à Jésus-Christ, on l'accepte, il nous scelle du Saint-Esprit. Il nous scelle du Saint-Esprit, Éphésiens donc 1, 13, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Donc, le Saint-Esprit nous scelle, nous avons été scellés. C'est une marque aussi, en quelque sorte, d'appartenance. Et le diable fera aussi une marque d'appartenance. Voilà. Alors, il y aura des gens dans la grande tribulation qui refuseront cette marque, qui finalement accepteront Christ. Ils ne feront probablement pas partie de l'Église, puisque l'Église ne sera plus là. Mais cette résistance leur coûtera la vie, parce que nous pouvons déjà entrevoir à quel point le monde... Quelques personnes ont les outils pour savoir ce que chacun de nous pense. Ça, c'est aussi en place. Et donc, donc l'Antichrist est appelé l'impie. L'impie, c'est anomia, donc sans loi. C'est quelqu'un sans loi. Et il y aura donc ces gens qui nous séduisent, hein. De même que dans le passé, il y a eu des personnages qui ont été redoutables, qui vont à la fois séduire le monde, qui vont aussi avoir une attitude blasphématoire contre Dieu et son temple. Et donc là, Israël va dans un premier temps faire alliance aussi. Elle fera alliance avec l'Antichrist, et puis cette alliance sera rompue et l'Antichrist se tournera contre Israël, va bafouer le temple, va blasphémer Dieu, va blasphémer sa demeure, va blasphémer tout ce qui habite au ciel. Hein. À l'image d'Antiochus Épiphane, qui s'était déclaré Dieu, hein, donc quelques centaines d'années avant Christ, il y avait eu cette profanation du temple de Jérusalem, qui va dresser une statue, il avait dressé une statue de lui-même dans le lieu très saint. Et là aussi, ça avait duré à peu près 3 ans et demi, quelques années comme ça. Et les Juifs s'étaient révoltés et avaient rétabli le culte dans le temple. D'ailleurs, beaucoup d'exégèses juifs pensent que les prophéties de Daniel se sont accomplies du temps d'Antiochus Épiphane. Mais Jésus, dans Matthieu, nous dit que il y aura l'abomination de la désolation qui viendra, vous le verrez, et qui ira jusqu'à s'asseoir dans le temple. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et se proclamant lui-même Dieu. Et alors, c'est vrai que des choses similaires sont arrivées autrefois, mais nous voyons dans la prophétie que souvent, il y a des répétitions, et que cela sera une dernière fois à son apogée, en quelque sorte, et la prophétie se fera pleinement. D'ailleurs, quand vous regardez 1 Jean 2,18, vous avez une phrase étonnante. Donc, l'expression étonnante, c'est « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Bon. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a à présent plusieurs antichrists. Donc on voit bien que un événement qui vient peut être précédé d'événements au pluriel qui sont semblables, mais qui ne sont qu'une pâle image de ce qui arrivera définitivement. Alors, on a posé la question, est-ce qu'il faut dire antichrist ou antéchrist? Vous savez que anti, c'est contre Christ, et anté, c'est avant Christ. Hein? Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les choses, on voit qu'elles s'accélèrent à une vitesse terrible. Bon, nous avons vu, et on y reviendra sur ce sujet, Israël est à nouveau en place. Bon, le temple n'est pas en place, mais ça viendra. Israël est en place. Il y aura une persécution terrible, nous l'avons vu dans le chapitre 12, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et contre ceux qui ont le témoignage en Jésus, hein, contre les Juifs et les croyants. Et donc, ce contrôle total de toutes les nations par un homme sera de courte durée, et la pierre viendra, frappera la base, et tout s'écroulera. Et au moment où le Seigneur reviendra pour établir son règne, là on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, nous rencontrerons Jésus-Christ dans les airs sur des nuées. Mais quand Christ reviendra, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, c'est autre chose. Donc c'est un autre aspect de l'établissement des prophéties concernant la mise en place de ce royaume. Et ce royaume, alors on ne va pas en parler ce soir, on le fera plus en détail dans une prochaine étude. Mais le contrôle de l'Antichrist est quelque chose qui prend de plus en plus forme, avec une évolution considérable sur une manipulation générale des gens, et surtout de la mise en place de ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est elle qui est redoutable. Alors, les gens naïfs, bon, c'est vrai, ça paraît de bons gadgets, alors on vous propose on vous propose par connexion que votre voilà, vous n'avez plus qu'à parler à votre maison pour que le volet s'ouvre, pour que la lumière s'allume, pour ceci, pour cela. Et mais bon, déjà, qu'est-ce que vous faites connecté sont des données qui sont analysées. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, quelques personnes qui contrôlent donc Internet savent ce que vous aimez, ils savent vos aspirations, vos tendances, ils ont votre profil, ils savent ce que vous achetez, etc., etc. Et cela va s'amplifier. Et la chose, cette intelligence mondiale artificielle va constituer un élément de connexion immédiate. Vous vous rendez compte comment l'adoration se fera? Verset 15, le faux prophète, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Mais vous vous rendez compte, ce texte a été écrit il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'ils ont compris il y a 2000 ans, une image qui parle? Essayez de vivre il y a 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'il dit, Jean? Une image qui parle. Et c'est une image animée. Donc c'est une image, en fait, et tous ceux qui n'adoraient pas l'image soient tués. Donc ce n'est pas d'être visiblement comme dans Daniel, justement, à un moment donné, il y avait un moment où il fallait que tout le monde se prosterne, etc. Mais là, mais chez soi, vous ne cliquez pas le bon bouton, on le sait aussitôt. On le sait aussitôt. Les Chinois viennent de prendre une décision cette semaine assez particulière par rapport à TikTok. Alors, ils ont dit, mais TikTok, c'est un peu nocif pour nos enfants, pas plus de 3 heures par jour. Et alors, au fond, ils font la même chose que ce qu'ils redoutent, et l'enfant qui dépasse les 3 heures, ben, le gouvernement le sait aussitôt, à cause d'Internet. Et ils sont automatiquement repérés et sanctionnés avec amende et tout. Alors, ils partent avec l'idée que les jeunes passent trop de temps devant l'écran. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Mais l'image, il suffira d'indiquer une allégeance à l'image qui parle. Alors aujourd'hui, justement, il y a un dialogue. Progressivement, tout se fait. Là avant-hier, j'étais donc avec un ami. Là, il a dû passer des coups de fil. Donc déjà, alors moi, je pourrais le faire sur mon téléphone, mais j'y pense jamais. Bon, je cherche dans ma liste et j'appuie sur contact. Mais par exemple, il dirait voilà, j'appelle René. Alors il parle à l'appareil et l'appareil appelle. On peut le faire, ça avec le téléphone. Ça marche pas avec. Donc on peut parler à son téléphone et lui dire voilà, j'appelle un tel et voilà. Mais on va parler à l'image. On va parler à l'image et ça va devenir redoutable.
Mais il y a une union politique avec les hologrammes.
Voilà, c'est voilà. C'est oui et donc les hommes veulent, dans l'aspiration à être comme l'Antichrist, et bon, et ben, ils veulent devenir des dieux aussi. C'est un peu l'idée derrière. Hein. Dieu est présent partout, donc l'homme va être présent partout, et progressivement, avec des lunettes, vous pouvez, déjà avec des lunettes, vous pouvez visiter virtuellement Versailles, le château, tout, comme si vous étiez. Donc maintenant, bientôt, on pourra ne pas sortir de sa chambre et voilà, tout faire, sans bouger. Mais c'est très redoutable. Et nous devons vraiment, c'est une grande bénédiction pour tous les parents qui ont des jeunes enfants et qui quand même ont décidé de jouer un rôle modérateur et de pouvoir placer des limites, avoir une certaine discipline pour que l'enfant ne soit pas totalement collé à l'écran. Et quand on voit des enfants, des jeunes, vous les voyez à la sortie de l'école, voilà, ils ne regardent même plus s'il fait beau, s'il pleut, ils sont déjà perdus dans leur écran. Mais ça devient un peu effrayant, mais ça va aller en s'intensifiant. Et je vais vous donner un petit indice pourquoi c'est particulièrement effrayant. Parce que les patrons des GAFA, tous ceux qui travaillent là dans la Silicon Valley, ont interdit à leurs enfants d'avoir des smartphones et des ordi. Ils font les pieds et les mains pour les protéger de consommer ce qu'eux-mêmes créent. C'est quand même un signe. C'est assez étonnant. Et c'est interdit. Dans les cités là où ils habitent, dans les grands complexes où il y a des familles qui habitent, alors c'est débranché. Ils sont débranchés. Et ils ne veulent pas du tout que le cerveau des enfants soit intoxiqué. Alors je vous donne la piste, vous ferez des recherches à ce sujet, mais c'est quand même... Ça interpelle aussi. Ça interpelle... Pourquoi ? Parce que, vous voyez, tout d'un coup, là, il y a, voilà, on demande que tout le monde adore, et puis tout le monde se met à suivre instantanément. On se dit, mais comment c'est possible ? Mais les gens vont tous avoir là, les mêmes réflexes, un conditionnement total. Les moutons de Panurge, voilà. Alors, vous pouvez nous donner... oui. Vous connaissez l'histoire des moutons de Panurge, hein, c'est Rabelais qui avait écrit ça. Hein. Donc c'est l'histoire de cet homme qui est sur un bateau, hein, c'est ça. Il est sur un bateau et donc il y a un capitaine, je ne sais pas ce que font ces... Il y a tout un troupeau de moutons sur le bateau. Hein. Et alors le... Panurge, je voudrais acheter un mouton. Et puis le capitaine le prend de haut, il le méprise, enfin il se moque de lui, il ne veut pas lui vendre un mouton. Et il se moque bien de lui. Alors, Panurge a un plan. Il va finalement réussir à acheter un mouton. Et c'est quoi la suite de l'histoire, René ?
Il le jette par-dessus bord.
Et tout le troupeau suit. Et le capitaine qui veut le rattraper, il est emporté aussi. Donc voilà, comment Panurge s'est vengé de ce capitaine. Bon, ça c'est l'histoire de Rabelais, hein, dans un de ses livres. Voilà, c'est cela le mouton de Panurge. Et c'est vrai, on n'a pas besoin de cette histoire pour savoir que voilà, les moutons, si on part dans une direction, tout le monde le suit. Mais ça sera exactement ça qui va progressivement se passer. Une seule pensée, complètement conditionnée et préparée. Et on y va à grands pas. Qu'on habite un village des Pyrénées ou en Asie, il n'y a plus de pays. Ça devient invasif. Voilà. Alors voilà un petit peu le tableau de... d'Apocalypse 13, est-ce qu'il y a... Oui, déjà, ça commence à être en place, tout à fait. Une autre remarque ou quelque chose à ajouter ? Voilà, ben, on va terminer dans la prière. Je peux te demander, Gino, si tu veux nous conduire dans la prière. Merci.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment que nous passons à étudier ta parole. Elle est un bienfait extraordinaire. elle nous parle de ce que tu as fait, mais aussi de ce qui va arriver. Merci pour ces éclaircissements. Nous te prions d'être de plus en plus affûté, prudent, parce que oui. les temps vont être difficiles.
Oui.
Cela nous montre aussi que nous devons continuer à prier pour tous ceux qui ne t'appartiennent pas.
Oui.
Et ce qui est le plus merveilleux, Seigneur, c'est que toutes ces imitations sont bien loin de ta gloire, de ta bonté, de ta merveilleux, de ton amour immense, de ce que tu es merveilleux. Et nous voulons t'adorer toi seul. Que ton nom soit béni. Et nous te demandons de nous accompagner ce soir et de bénir tous ceux qui n'ont pas pu venir. Au nom de Jésus.
Amen. Amen.